Quand on est non-scientifique, on se dit ben, bien sûr que les biologistes sont des scientifiques. Mais à vous lire, on a l'impression que leur statut de scientifique est un peu vacillant dans le domaine des vrais scientifiques. C'est vrai ce qu'on observe là ?
En effet, c'est exactement le statut qu'on peut observer. J'aimerais bien commencer maintenant avec une petite exagération. On a d'un côté les sciences dures, exactes comme la physique, et on a de l'autre côté les sciences qui sont souvent appelées un peu molles, les sciences sociales, les sciences humaines. Très souvent, on attribue plutôt à la physique le statut scientifique, tandis qu'aux sciences humaines, sciences sociales, on hésite, parce qu'ils ont pas exact, ils font pas des prédictions claires, ils ont d'autres méthodes. Et la biologie se trouve un peu entre les deux. Et d'un côté, si on prend juste les succès de la biologie, on peut pas véritablement hésiter d'attribuer un statut scientifique. Et la question de savoir est comment exactement définir, déterminer ces statuts scientifiques entre les deux pour l'extrême. Et la chose intéressante pour moi, c'est un peu de voir ou d'argumenter que la biologie est pas seulement une science similaire à la physique parce qu'elle peut incorporer les modèles physiques, parce qu'elle est très souvent ou de plus en plus exacte, si on prend par exemple la génétique moléculaire, mais plutôt, pour dire différemment, d'attribuer un statut scientifique à la biologie parce qu'elle est molle en fait, parce qu'elle fait d'abstraction des détails, parce qu'elle est souvent pas précise. Mais la chose intéressante, et j'espère que ça sort à la fin de mon livre, et que la biologie est capable de faire d'abstractions de détails qui ne sont pas pertinentes. Elle est capable conceptuellement, et ça plus que la physique, de se focaliser sur les mécanismes pertinents, par exemple en ce qui concerne l'évolution. Si on prend l'exemple classique...
Donc l'évolution biologique, hein ?
C'est ça.
Darwin et tout ça.
C'est ça. Ouais. Disons, en théorie, on pourrait dire, c'est bien sûr juste imagination abstraite, théorique. En théorie, la physique pourrait décrire et expliquer l'évolution biologique, mais c'est un phénomène très complexe. Donc forcément, on doit faire d'abstraction, et la biologie fait ça avec le principe de la sélection naturelle.
Donc là où un physicien, dans la description de ces mêmes phénomènes physiques, moléculaires en fait, hein, on est à l'échelle de la molécule, un physicien se perdrait en somme et ne verrait pas, n'arriverait pas à distinguer des grandes tendances qu'un biologiste qui utilise des concepts plus abstraits arrive à discerner.
Effectivement. Là, on est maintenant surtout exclusivement sur le côté pragmatique, opérationnel. De toute façon, en pratique, la physique ne pourrait pas décrire et expliquer l'évolution biologique. Les phénomènes sont simplement trop complexes. Mais ce que le livre veut montrer de plus, c'est qu'on ne fait pas simplement d'abstraction des détails physiques pour qu'une théorie devienne opérationnelle. On n'a pas seulement la biologie parce qu'on est un peu trop bête de calculer tout en termes physiques. Ça fait véritablement du sens parce que la biologie, avec ses propres concepts, peut montrer des similarités fonctionnelles avec un seul concept, par exemple.
Tandis qu'est-ce qu'on entend par similarité fonctionnelle ?
Si on prend par exemple tous les individus de notre espèce, il a des similarités, donc on peut utiliser peut-être un seul concept ou deux, trois concepts biologiques et appliquer ça à tous les êtres vivants.
Qui est global et par similarité, qui englobe là où un physicien ne verrait qu'une collection de cas particuliers.
Oui, pour exagérer, disons, c'est pas véritablement correct, mais on pourrait dire du point de vue physique, on voit surtout les différences si on se focalise sur les êtres humains en fait. Tandis qu'en termes biologiques, on voit pas seulement des différences, mais beaucoup de similarités. Donc à cause de nos similarités, on peut prédire ou expliquer des choses.
Quelles sont, Christian Zaxel, les fragilités ou disons les failles scientifiques du biologiste aux yeux d'un physicien, par exemple ?
Le biologiste n'arrive pas à formuler des lois ou des modèles qui ne contiennent pas des exceptions. Ça, c'est quelque chose qui est juste possible pour les physiciens, de formuler des lois sans exception, des lois universelles. Alors ça, c'est tout d'abord un grand contraste, une grande différence entre les deux. De l'autre côté, avec la biologie, mais ça rend la biologie plutôt intéressant à mon avis, c'est tout est en train de changer en fait. Les concepts qu'on utilise aujourd'hui pour décrire notre espèce sont plus valables un jour. Tout est en train d'évoluer, donc il n'y a pas quelque chose comme un certain nombre de lois fondamentales comme en physique qui restent valables depuis le Big Bang. Pas depuis le Big Bang, et donc les premières millisecondes, mais après ça jusqu'à aujourd'hui. Il y a quelque chose comme une stabilité, il y a une uniformité des lois. Ça, on ne va pas forcément trouver au niveau biologique. Mmh. Mais on pourrait dire, pour encore une fois faire la publicité pour le principe de la sélection naturelle, bien sûr, la philosophie de la biologie est plus que ça, mais le principe de la sélection naturelle est surtout attirant parce que c'est un principe assez simple qui s'applique à une variété des espèces très différentes et à chaque étape de l'évolution, en fait. C'est quelque chose qui reste, d'une certaine façon, valable.
Alors, simple, dites-vous, Christian Zaxe, simple, mais quand même avec des points de fragilité méthodologique, épistémologique aussi, c'est-à-dire dans les techniques d'acquisition de la connaissance, des points de fragilité que vous aimeriez décrire et analyser dans votre livre. À commencer par la définition de ce qu'est un être vivant, déjà. Là, on n'est pas très au clair, on a une notion intuitive, mais dès qu'on regarde dans le détail, distinguer le vivant du non-vivant, ce n'est pas facile. En tout cas, il y a quelques définitions très intuitives, celle de Monsieur Tout-le-Monde, qui ne marche pas, on a toujours appris, est vivant un être capable de se reproduire. Du coup, un mulet stérile, issu d'un croisement inter-espèce, ne serait pas vivant puisqu'il ne peut pas se reproduire. Donc il y a des notions intuitives qui ne marchent pas très bien. Vous écrivez « est vivant un objet qui est exposé à la sélection naturelle, c'est-à-dire qui se modifie de génération en génération ». Mais en fait, la plupart des êtres vivants ne se modifient pas. Ils bougent très peu ou quelques-uns d'entre eux bougent et restent survivants. Enfin, on connaît la théorie, mais la plupart ne bougent pas. Ils sont vivants quand même.
En effet, ça a l'air comme si on trouve ici une certaine paradoxe, mais il faut poser la question à quel point on peut décrire, résumer les points essentiels de l'évolution. Et là, on se focalise surtout sur les unités de sélection qui sont en fait, dans notre cas, pour simplifier un peu, les gènes en fait. Mmh. Vous avez raison, votre génotype ne va pas changer beaucoup lors de votre vie. Et à ces points-là, vous n'êtes pas...
Donc le génotype, c'est la carte qui a servi à ma fabrication, en somme.
Oui, on va dire ça. Ça ne va pas changer. Vous pouvez donner une certaine partie de votre génotype à la prochaine génération, mais... Et peut-être il y a aussi quelques mutations quelque part, peut-être à cause du soleil ou d'autres choses. Mais ça, c'est un peu notre perspective sur les individus. Et qui est bien sûr intuitif. On se focalise sur les choses qui sont dans notre entourage, qu'on peut observer, on est fasciné par ça. Mais en fin de compte, les unités qui constituent toute l'évolution sont des réplicateurs, sont des gènes, en fait, pour prendre un peu la perspective bien controversée de Richard Dawkins maintenant. À mon avis, ce que je veux montrer un peu dans ce livre, c'est... Si on compare cette perspective génocentriste, très détaillée, focalisée sur les gènes, sur les réplicateurs, en comparaison avec les autres approches qui se focalisent sur les individus, sur les espèces, à mon avis, ce sont des approches qui font abstraction, en fait, des détails génétiques moléculaires.
Si je vous comprends bien, Christian Zaxe, en fait, quand on parle de théorie de l'évolution, la perception qu'on en a, c'est que on a une théorie qui explique l'évolution des individus, donc de populations, donc d'espèces qui meurent et qui naissent pour certaines d'entre elles. En fait, toute une transformation, toute une métamorphose des organismes vivants, de toute la collection des organismes vivants dans la durée. Et ça, c'est une façon de voir les choses. Et vous, ce que vous proposez, c'est de changer d'échelle, en somme, d'aller à une échelle totalement minimale, moléculaire, même infravivante, qui est celle des gènes, c'est-à-dire d'observer l'évolution des choses comme si on avait des lunettes qui nous permettaient de ne voir que les gènes et qui nous conduisaient forcément à ignorer les grandes superstructures, les cellules, les individus, et les populations, les espèces. C'est bien ça.
C'est bien ça.
Et là, on observe quelque chose de tout à fait différent, c'est-à-dire qu'on voit le monde autrement à cette échelle-là.
On voit le monde très différemment, en effet. C'est les gènes qui changent, en fait, au fil du temps.
Ouais.
Mais lors de votre vie, les gènes ne changent pas grand-chose. À ces points-là, on a un peu un contraste. Mais pour reprendre peut-être le mot-clé des échelles différentes, on pourrait simplement dire qu'on peut décrire, expliquer, observer l'évolution à des échelles différentes. Très minimaliste, très réducteur par rapport aux gènes, plutôt abstrait ou convenient à nous par rapport à des individus et encore plus large par rapport à des espèces. Et on pourrait dire, il existe un débat de favoriser une perspective par rapport à l'autre. Et ce que je veux montrer en fait dans ce livre, il n'y a pas cette guerre entre les perspectives différentes. On peut les lier et on peut analyser à quel point une perspective a des avantages épistémologiques par rapport à une autre perspective. Donc, il y a sans doute des avantages de se focaliser sur le gène, à savoir, on apprend beaucoup de détails, mais dans certaines conditions environnementales, bien sûr, on peut se focaliser sur une échelle plus abstraite, et on arrive parfois même à l'individu ou même à des espèces, et on peut incorporer encore la dimension historique sur quelques millions, milliards d'années, en fait.
D'accord, donc en fait, on a un regard totalement différent sur le phénomène, mais c'est le même, le phénomène. C'est simplement le niveau de regard qui change. Mais c'est un peu comme ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui oppose les biologistes et les physiciens, ou à dire peut-être les biologistes et les biochimistes, on pourrait dire, peut-être. C'est de dire que finalement, quand ils parlent de gènes, ils ne parlent pas de la même chose et ils ne décrivent pas les mêmes phénomènes.
Probablement, ils parlent de la même chose, mais juste en termes différents, pour faire un accent sur d'autres aspects et mettre en valeur d'autres aspects. Si on prend un gène, pour simplifier, du point de vue physicien, physique, c'est une configuration d'atomes. On a une certaine structure, on se focalise sur la structure, tandis que du point de vue biologique, encadré dans la théorie de l'évolution, on se focalise sur certains aspects fonctionnels, en fait. On pourrait dire on n'est pas intéressé par la structure. Tout ce qui compte, c'est la fonctionnalité. Mais en fin de compte, c'est la même chose. Il y a juste une seule entité qui décrit en termes différents. Et en théorie, on pourrait aussi remplacer cette description structurale physicien en termes causal. Et à ces points-là, fonctionnalité et causalité, c'est presque synonyme, en fait.
Oui.
Bien sûr, le terme de la fonctionnalité au niveau biologique, c'est un peu plus précis que simplement effet causal.
Donc, un physicien décrit la structure de ce qu'il voit, même la structure de phénomène, alors que le biologiste va les interpréter, ces structures, comme des fonctions. Mais quand on dit fonction, on a presque dans la tête un petit peu l'idée d'un but, d'un objectif, d'une téléologie, comme on dit, c'est-à-dire d'une raison d'être. Et ça, c'est quand même une notion qui est tout à fait contraire au darwinisme, à la théorie de l'évolution, qui dit que les choses évoluent mais sans but, sans horizon.
En effet, dans la théorie darwinienne, il n'existe pas de but, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui était bien sûr controversé à l'époque, parce que c'est à l'encontre de toutes les approches de l'époque qui sont religieuses, où on trouve peut-être derrière tous les vivants encore un créateur intelligent qui a créé tout avec un certain but.
Et un tout grand projet.
Un grand projet. Ça n'existe plus, en fait. La théorie de l'évolution qui se base sur le principe de la sélection naturelle, c'est un peu un mécanisme aveugle, en fait. Au meilleur des cas, ça va dans la bonne direction, mais c'est même la question maintenant, quelle est la bonne direction ? Ça n'existe plus, en fait.
Ça existe comme ça existe, voilà.
Oui, c'est ça. Il a juste une variété, il a des différences de fitness, il a une sélection, il a certains gènes qui vont supplanter d'autres, il a certaines espèces qui vont mieux survivre sous certaines conditions environnementales que d'autres. Et voilà, on est un des résultats fantastiques de cet mécanisme de l'évolution. Mais le but, véritablement, quand ça existait avant Darwin, ça n'existe plus. Il n'y a pas quelqu'un qui a créé, qui a réfléchi véritablement. Il a juste en fait la sélection naturelle qui est un mécanisme inévitable à partir du moment où on a des réplicateurs avec des fitness différentes, on pourrait dire.
Définissons-le, ce mot fitness. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec notre forme physique, ni même la forme physique des espèces considérées. Qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de mesureur de l'adaptation d'un individu à quoi ? À son environnement ?
Il s'agit d'une disposition. Vous avez une certaine disposition de se vivre dans ces contextes ici. Vous avez une certaine disposition de vous reproduire. Et si ou non vous survivez, ça dépend du contexte environnemental. On pourrait dire chacun a une fitness en tant que propriété dispositionnelle. Mais de le connaître, c'est bien sûr d'autres choses en fait. C'est juste à cause de vos propriétés, on pourrait dire physiques, chimiques, biologiques. Forcément, vous avez une certaine fitness.
Mais comment est-ce qu'on peut mesurer, déterminer, calculer la fitness d'un individu, d'une espèce donnée ? Comment pourrait-on le faire pour vraiment la mesurer, lui donner une note à cette fitness d'un individu ?
Alors, la méthode pratique est bien sûr, on attend si les bactéries se reproduisent ou pas, se multiplient ou pas.
au niveau des bactéries.
Mais à ces points-là, ça devient compliqué parce qu'on attend un peu les effets pour rétrospectivement déterminer l'heure de fitness. À ces points-là, ça devient circulaire. Ça, c'est un peu une faute. C'est le problème de la tautologie.
Donc, ça, c'est pas très sérieux scientifiquement.
Si on fait juste ça, c'est pas. Non, c'est pas sérieux. Ça pose un problème de tout le statut de la théorie de l'évolution. Si on ne peut pas éviter cette circularité.
Si on ne peut pas prédire, en fait.
On regarde
ce qui se passe et ensuite on dit, ben voilà, en fonction de ce qu'on a observé, on reconstitue la loi. Ça ne suffit pas, ça, au point de vue de la méthode scientifique.
Non.
Il faudrait qu'il y ait un élément prédictif.
Oui.
Un potentiel prédictif.
Oui. Mmh. Et ça pose la question si la biologie ou les biologistes arrivent à remplir cette tâche complètement autonome, en fait. Mmh. Et à mon avis, en théorie, c'est plutôt le cas que, avec les connaissances biologiques par rapport à des organes, par rapport à des tissus, par rapport à des propriétés biologiques, mais aussi en incorporant des connaissances biochimiques, physiques, chimiques, on arrive de plus en plus, et le succès de la recherche le montre, de prédire en fait, à quel point une certaine bactérie va probablement interagir dans ces contextes environnementaux tels que, etc., etc. Donc
des statistiques prédictives, en somme, un peu.
Oui, on pourrait dire ça. Mais la chose importante, c'est, à mon avis, ici, que la biologie montre, ou moins la recherche montre très souvent, une approche de plus en plus physique, en fait. On va très souvent de plus en plus dans les détails. S'il y a un phénomène qui n'est pas très bien compris du point de vue biologique, alors on va poser la question aux biochimistes, on va poser la question aux chimistes et peut-être même aux physiciens. Et par tous ces détails qu'on apprend, qu'on peut incorporer, c'est la biologie qui devient de plus en plus prédictif et fort, en fait, et explicatif, en fait. Si on compare la biologie avec la physique, et on pose maintenant la question, quel est un bon critère pour comparer deux théories différentes qui font référence aux mêmes entités? Alors on peut poser la question, quelle théorie fournit plus de détails? Alors là, c'est la physique qui gagne. Mais si on pose maintenant la question, quelle théorie peut utiliser par exemple un seul principe, comme le principe de la sélection naturelle, à une variété des entités?
Une grande variété.
Une grande variété. Et juste un seul concept, alors là, c'est un peu, d'une certaine façon, la biologie qui gagne, parce qu'il a le principe de la sélection naturelle qui s'applique à nous, qui s'applique aux bactéries, aux plantes, etc. Mais toutes ces entités sont décrites en termes physiques très différentes. Donc, du point de vue physique, bien sûr, on peut tout décrire, tout expliquer en théorie, mais d'une manière très hétérogène, en fait.
Et la biologie, du coup, sur ces questions-là, offre une meilleure vista que la physique?
Oui. Dans le sens où, mais pour me répéter, pour montrer avec juste certains concepts des similarités pertinentes, qui sont vraiment pertinentes pour comprendre l'essentiel de l'évolution biologique, qui est important en fait.
Christian Zaks, votre livre « Philosophie de la biologie », des biologistes l'ont peut-être déjà lu, bien qu'il soit paru tout récemment. Quel était leur feedback? Est-ce qu'ils ont trouvé que vous étiez un bon avocat de leur cause, de leur méthode de travail et de leur crédibilité scientifique?
Alors, le feedback positif était surtout que, en tant que philosophe, je m'approche et je prends sérieux la recherche au niveau biologique. Je prends vraiment des articles scientifiques qui ne sont pas des articles scientifiques philosophiques, mais des véritables articles de recherche biologique.
Ouais, donc, qui va très documenté à cet égard, c'est vrai.
Alors, et ça, c'est important parce que très souvent, les réflexions philosophiques sur une science naturelle comme la biologie, c'est souvent très conceptuel et très abstrait et pas forcément au niveau actuel de la recherche. Par contre, de l'autre côté, les biologistes qui m'ont déjà donné un feedback par rapport à ces livres me disent bien sûr qu'ils trouvent certaines parties plutôt provoquantes. Provoquantes dans le sens où ça crée plutôt un débat que finir un débat. Et en effet, ce livre n'est pas écrit pour finir un seul débat, en fait. C'est plutôt pour montrer...
Pour l'ouvrir, le
pour
débat.
Pour ouvrir et pour montrer des pistes, à mon avis, très prometteuses, de revoir beaucoup des débats très intéressants d'une autre perspective.
Christian Zaks, je vous remercie d'être passé nous voir.